Bonsoir. À l'occasion de la célébration le 22 juillet de la Journée nationale de la presse, l'Observatoire des médias congolais OMEC relève l'accès difficile aux sources d'information et la multiplicité des taxes parmi les problèmes auxquels sont confrontés les journalistes et les maisons de presse en RDC. Quelle analyse faire de cette déclaration de l'OMEC ? Nous recevons comme invité Banza Tiefolo, président de la commission technique au Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC. Monsieur Banza Tiefolo, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Kasonga Kilunde, secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Monsieur Kasonga Kilunde, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Dr Emmanuel Kabongo, journaliste et analyste politique. Merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Jeannot Katembo Kivono de Goma en Nord Kivu, en province du Nord Kivu par exemple, les maisons de presse sont la cible des hommes armés qui en profitent pour véhiculer leurs messages. L'État congolais devrait sécuriser toute son étendue et songer à certaines radios victimes de pillage et autres effets de la guerre. Je pense enfin que l'OMEC a totalement raison et devra beaucoup militer pour que cette interpellation ne reste pas lettre morte. Siviri Chico de Lubero Nord Kivu, la déclaration de l'OMEC prouve à suffisance que la RDC est loin d'assurer l'accès à l'information car non seulement le pouvoir en place muselle les médias de l'opposition pour informer la population, mais aussi celui-ci ne permet pas à tous les médias d'accéder aux informations officielles. Merci de votre attention et surtout de votre fidélité.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Journée nationale de la presse est célébrée exceptionnellement le 23 juillet au lieu du 22 comme de coutume. La particularité de cette journée, c'est l'organisation de la première édition du prix national de la liberté de la presse Lucien Chimpumpu au Grand Hôtel Kinshasa. L'Observatoire des médias congolais saisit l'occasion pour rappeler les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes et les maisons de presse dans l'accès à l'information et la révision à la baisse des taxes qui, selon Polydor Mouboyaï, handicape le fonctionnement de ces secteurs. On écoute Polydor Mouboyaï.
C'est d'abord d'appliquer les lois, parce que nous avons des lois qui existent. Améliorer l'accès à l'information, parce que là, il se pose des vrais problèmes. Vous avez vu de certains points de presse tenus par le ministre de la Communication et des Médias. C'est la toute première fois que le ministre des Affaires étrangères est sorti du bois pour donner l'information aux journalistes. Mais les choses ne doivent pas se passer comme ça. Il y a tout un problème au niveau de l'environnement, l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement politique. Ce sont toute une série de problèmes qu'il faut pouvoir régler parce qu'on ne peut pas parler de liberté de presse lorsque le journaliste n'a pas accès à l'information. Nous sommes dans une période assez délicate pour le pays et en ce moment-là, il est important que la structure qui doit donner l'information aux médias le fasse de manière régulière. Donc il y a cette question d'accès à l'information, il y a le problème de l'environnement économique qu'il faut améliorer et il y a toutes ces tracasseries qui tournent autour de différentes taxes qui plombent le fonctionnement des médias.
En réponse, le ministre de la Communication et des Médias affirme que le gouvernement fait des efforts pour faciliter l'accès à l'information. Lambert Mende ajoute que le gouvernement est conscient des difficultés que connaît la presse congolaise et qu'il va assouplir certaines mesures. On écoute Lambert Mende.
Nous faisons un effort de plus en plus, vous suivez les rendez-vous que le Premier ministre organise avec les médias. Le ministre des Affaires étrangères, de retour d'Addis Abeba, a communiqué de manière très transparente.
C'était une première.
Avec les médias, oui, mais nous allons poursuivre sur cette lancée. Il faut un commencement à tout. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui essayent de mériter la confiance ou les faveurs du public. Et nous savons qu'ils ne sont pas à l'abri des tentations à cause des difficultés d'ordre économique. Mais ils peuvent compter sur le gouvernement dans la mesure des moyens à la disposition du gouvernement. Le gouvernement va essayer d'obtenir ne fût-ce que des facilités en termes de tout ce qui est dû à l'État, d'alléger le fardeau des journalistes vis-à-vis du fisc en tenant compte de la qualité de service public qui est attachée à cette profession.
C'est un dossier signé Berry Franklin Luchaka. Monsieur Kasonga Chilunde, vous êtes secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC. Sous quel signe doit-on placer la célébration de la Journée nationale de la presse?
La journée nationale de la presse pour cette année a été placée sous le signe de la nouvelle citoyenneté parce que les journalistes voulaient bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, nouvelle citoyenneté. Jusqu'à présent, dans toutes les rédactions, et des questions on nous pose, nous ne parvenons pas à maîtriser le contenu du concept même de nouvelle citoyenneté. Alors c'est dans cet esprit que nous avions estimé que le thème devait être celui-là. Mais pour notre malheur, le ministre était très pris, il n'a pas pu venir dans l'atelier que nous avions prévu, que nous n'avons pas pu organiser d'ailleurs, parce que c'est lui le grand animateur, parce que c'est lui le véhicule de cette nouvelle citoyenneté. Alors, nous avons remis ça à plus tard.
Alors, vous avez suivi Polydor Mouboyaï de l'OMEC qui relève notamment deux difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes et les maisons de presse en RDC, l'accès à l'information et la multiplicité des taxes. Commençons par l'accès à l'information. Comment vous analysez cet aspect?
L'accès à l'information, vous savez que nous sommes dans un pays atypique. Les informations de notre pays, particulièrement au niveau des autorités, sont réservées principalement à la presse étrangère. Lorsque un journaliste congolais va vers un ministre pour avoir une information, vers un PDG, ce qui leur vient en tête, c'est qu'on dit non, voilà, c'est un mendiant, il vient chercher l'argent. Et le lendemain, lorsque dans la presse l'information est sortie de la manière dont le journaliste la détient, oh non, vous ne vérifiez pas vos informations à la source, vous n'avez pas confronté les sources. Mais ça pose un vrai problème, et nous ne cessons de soulever ce problème à tout moment. Mais qu'est-ce que vous voulez, celui qui détient l'information, il en est le propriétaire, et on ne peut pas le lui arracher. Mais nous faisons ce que nous pouvons, et nous le sensibilisons à tout moment, pour que il s'ouvre quand même à nous donner l'information. Si aujourd'hui il y a une information qu'on donne à RFI ou à Jeune Afrique, mais les bénéficiaires de cette information, c'est avant tout nous, Congolais. Pourquoi estiment-ils qu'ils doivent seulement là-bas? Parce qu'ils veulent, comment je dirais, avoir une dimension internationale. Moi, je pense que c'est une erreur de leur part. Il faut vraiment que nos autorités s'ouvrent et soient communicatives. Il faut que l'information circule. Il faut que nous soyons en mesure de former notre peuple de ce qui se passe dans notre pays.
Voilà, la RDC est en train de traverser une période très difficile. Jusqu'où il y a des informations qu'on dit classées secret défense? D'après vous, jusqu'où devrait aller l'officiel, l'information officielle?
Mais vous vous rendez compte, c'est l'officiel bloque l'information sous prétexte de secret défense. Mais quand vous suivez les médias internationaux, l'information considérée comme secret défense dans notre pays est diffusée à travers le monde. Et nous, journalistes congolais, nous sommes obligés ou nous sommes soumis à chercher cette information au niveau des médias étrangers pour la donner ici. Et parfois, on nous condamne pour ça. Mais aujourd'hui, vous allez cacher que l'information, il y a l'internet, il y a la télévision qui donne tout, il y a les réseaux sociaux. Ben, vous ne pouvez plus cacher une information quelconque, parce que eux-mêmes, les rebelles qui nous attaquent communiquent plus que notre gouvernement. C'est ça le vrai problème.
Alors, vous avez également fait allusion aux journalistes lorsqu'il vient pour chercher cette information. On dit qu'il est mendiant, tout ça, qu'il vient pour de l'argent. Il y a Papi Chebang de Kalemio Katanga qui dit la presse est trop partisane. Elle traite l'information selon qu'elle appartient, soit au pouvoir, en place, soit à l'opposition. Elle ne doit pas avoir des couleurs politiques. Elle est prise en otage par le politicien congolais.
Mais ça ne peut pas surprendre. Quand vous prenez la plupart des médias, ils sont créés par les hommes politiques. C'est eux qui les gèrent. Et d'une manière générale, même si la loi dit que les hommes politiques, n'importe qui peut créer un média, mais pourvu qu'ils donnent la direction des programmes ou la direction des informations à un journaliste professionnel, c'est parce qu'il est censé maîtriser les rouages de la déontologie. À partir de ce moment-là, il faut qu'il ait du cœur pour résister aux injonctions de son patron. Et c'est ça le vrai problème. Et puis ensuite, les informations, quand on donne l'information, ce sont des faits qui sont sacrés. Mais lorsque chacun, conformément aux orientations de son camp, donne une autre dimension dans le commentaire. Moi, je pense que il faut qu'il y ait une confrontation et comme ça, chacun peut, le peuple peut faire une analyse objective de la situation. Parce que vous le vouliez ou non, tout ce que nous disons ou tout ce que nous écrivons, la population se fait toujours une idée sur chacun de nous, sur chaque média et sur même les décisions qui sont publiées. Donc la population n'est pas si naïve que nous pouvons le penser. La population agit, réfléchit aussi et critique.
Alors, vous êtes secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Quelle est votre perception quant à la multiplicité des taxes?
Mon cher ami, je vous dis que depuis que je suis élu secrétaire général de l'UNPC, ça fait 8 ans aujourd'hui, notre combat, c'est le problème des taxes. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y a un média qui va fermer le 1er août, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à faire face aux taxes. Et quand il ferme, ça veut dire qu'il y a autant de journalistes, de professionnels, de caméramens et tout ça qui vont au chômage. Tout ça pourquoi? Aujourd'hui, là, quand vous faites l'inventaire des taxes, il y en a au moins plus de 50. Mais est-ce normal dans un pays qu'on puisse avoir autant de taxes, autant d'impôts? Mais c'est une calamité. Et d'ailleurs, la loi de 81 et même de 90, qui a été modifiée en 96, donne les avantages à la profession, à la presse. C'est-à-dire l'exonération des taxes et impôts, et les tarifs préférentiels et les aides directes. Mais, mon cher ami, jusqu'aujourd'hui, aucune disposition de cette loi en la matière n'a jamais été appliquée, exécutée. Mais on recourt à la loi que lorsqu'elle doit réprimer. Mais c'est pas normal. Et ce que le président de l'OMEC a dit, mais c'est des choses vraies. Hein, c'est des choses vraies et il faut nous battre. Et j'espère que cette fois-ci, le ministre des médias, comme il a promis, j'espère que cette fois-ci, il prendra conscience des difficultés auxquelles la profession est confrontée et que il va faire en sorte que ses collègues signent des arrêtés d'application. Ce n'est pas une faveur, mais c'est une loi qui donne ses avantages à la presse.
Banza Tiefolo, vous êtes président de la commission technique au Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est ça que, pour vous, sous quel signe doit-on placer la célébration de la Journée nationale de la presse?
Je crois que monsieur le secrétaire général de l'UNPC, que je salue en passant, l'a bien dit, c'est eux qui ont organisé. C'est dommage que le ministre n'ait pas été là. Bon, c'est sûr qu'il était pris par les charges étatiques et que c'est une partie remise. Bon, je crois que ce que je voudrais dire ici, nous sommes un grand pays, nous devons éviter de cultiver ce que je fais appeler par excuse une presse fantomatique.
C'est-à-dire?
Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans un état où il y a un foisonnement de maisons de presse, entre guillemets, et il se pose un problème lié à la structuration de ce qu'on appelle ici chez nous entreprises de presse. Et cela se pose et au niveau de la communication institutionnelle et au niveau de la communication active. Par communication institutionnelle, vous n'avez qu'à voir dans les structures étatiques et même privées comment les attachés de presse et les conseillers en communication sont traités. Généralement, ils ne sont pas associés à la politique générale de ces structures-là. Ce qui fait que même quand un journaliste arrive, il n'a pas à obtenir d'un attaché de presse ou d'un conseiller en communication une information quelconque. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la presse active? Pour la presse active, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est d'arriver d'abord à voir des entreprises de presse viables, immatriculées au registre des commerces, avec un compte bancaire connu. Et quand le secrétaire général parle de problèmes d'accès à l'information, nous avons exercé cette profession pendant plusieurs années. Il y a une difficulté qui est majeure, c'est celle qui porte sur l'organisation même du journaliste. Un bon journaliste, il doit avoir un carnet d'adresses. Il doit savoir gérer correctement ses sources d'informations. Et en dehors de ça, l'entreprise elle-même doit être organisée de sorte qu'elle ait des reporters un peu éparpillés partout. Si on ne peut pas couvrir tout le pays, ne fût-ce que dans les grands centres. Et aujourd'hui, il y a des médias étrangers qui, généralement, vous sentez que quand ils font leur travail et qu'il y a des grandes occasions, des grands événements, ils envoient leurs reporters sur le terrain des grands enjeux. Et ça ne peut pas, aujourd'hui, nous empêcher
de... Il faut des grands moyens pour ça.
C'est pourquoi il faut qu'il y ait des entreprises de presse. Qu'est-ce que nous avons comme entreprises de presse aujourd'hui? Elles sont combien, ces entreprises? Il faut les comptabiliser, celles qui peuvent avoir une comptabilité connue, celles qui sont immatriculées au registre des commerces, celles qui ont un personnel régulièrement et correctement payé, pour qu'il y ait une motivation interne. Parce qu'il y a certaines entreprises de presse qui utilisent un nombre assez déterminé du personnel. Sur 20, il y a 10 qui sont payés et les autres ne sont pas payés. Donc, au niveau structurel... Et les ONG de la presse et les structures institutionnelles, il y a lieu de converger, de chercher des pistes, des solutions. Le ministère de la Communication, le CESAC, etc., l'UNPC, l'OMEC. Donc, il y a moyen de trouver des pistes, des solutions. Mais pour cela, il faut des moyens. Les moyens, il faut les chercher. On ne se réveille pas le matin. C'est là que je reviens encore à la presse fantomatique. Vous vous réveillez le matin, vous avez le récépissé ou vous avez n'importe quel document pour l'obtention de la fréquence. Vous devenez patron d'une maison de presse, ça ne se passe pas comme ça.
Alors, le secrétaire général Kasonga Chilonde a souligné que souvent les officiels se cachent derrière le sceau du secret défense pour ne pas donner l'information qu'il faut.
Bon, vous savez, en matière de communication institutionnelle, toute information n'est pas à mettre à la portée du grand public. Ça dépend. C'est celui
mais
qui
gère...
Mais
quand il s'agit des médias officiels, là, on y va très rapidement.
Laissez-moi un peu terminer l'idée. C'est-à-dire, tout dépend de la qualité et de la nature de l'information. Si c'est une information d'ordre général, d'intérêt général, il n'y a pas de problème. Mais le journaliste, je l'ai dit, doit être en mesure d'entretenir ses sources et d'avoir un carnet d'adresses. Vous devez savoir à quelle porte toquer pour avoir quel type d'information et comment la rendre. Il y a aussi un problème lié à la gestion de la crédibilité de certains journalistes. Je dis bien de certains, pas tous. C'est-à-dire, on vous donne l'information, parfois la source vous dit qu'il ne faut pas la citer, mais par souci de faire le sensationnel, vous la citez à ce moment-là, vous n'aurez plus jamais une information à partir de cette source-là. Il y a autant de paramètres qui s'entrent dans la balance et il faudrait que nous, journalistes, nous ayons le courage de nous mettre autour d'une table et dire que non, voilà comment nous allons structurer la profession, comment un journaliste peut être dit journaliste professionnel et responsable.
N'y aurait-il pas un certain complexe de la part des officiels quand on le suit certaines fois sur certains médias internationaux, comme a dit le secrétaire général Kasonga Chilonde, on apprend plutôt certaines informations sur ces médias-là, mais en interne ici, il n'y a rien. N'y aurait-il pas ce problème de complexe?
Bon, complexe, non. Vous savez, nous, en tant que communicologues, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, il y a des appréciations. C'est-à-dire que le média, à quelle audience, par exemple, c'est pas n'importe quel journaliste. Nous avons des grands journalistes, des journalistes et des talents. Et tout dépend du climat de confiance entre le journaliste et la personne qui doit livrer l'information. Il y a aussi la notoriété et l'audience du journal même ou de la maison de presse, si c'est dans l'audio visuel. C'est-à-dire, on doit se dire que, bon, écoutez, moi, j'ai une télévision, j'ai une radio, je couvre quel espace, par exemple. Bon, moi, en tant que politicien, je peux me dire que non, je préfère livrer telle information à tel média parce que ça va porter plus haut.
Voilà, prenons cette réaction qui nous vient de Kisangani, en province orientale, pour vous, Monsieur Banza Tiefolo.
Pepe Lisungi Botomoito, depuis Kisangani, à province orientale. Je voudrais savoir s'il y a collaboration entre l'OMEC et le CESAC, car il y a d'autres actions prises par le CESAC qui sont politiques et l'accès difficile à l'information, c'est toujours aux journalistes des chaînes de l'opposition.
Voilà, le CESAC ne prend que des sanctions politiques. Y a-t-il collaboration entre l'OMEC et le CESAC?
Bon, je voudrais d'abord apaiser notre ami Pepe Lisungi pour dire que d'emblée, je dois lui dire qu'il y a une parcelle de collaboration, une passerelle de collaboration qui veut que lorsqu'il s'agit d'une question qui tient à une sanction éventuellement infligeable à un professionnel de médias, nous devons, s'il n'y a pas flagrance avérée, c'est-à-dire le dossier est d'abord envoyé pour avis à l'OMEC et il y a un délai. Si le délai de 7 jours est dépassé, le CESAC peut se ressaisir du dossier. C'est pour éviter que ça ne donne pas l'impression que l'instance de régulation, qui est d'abord une institution d'appui à la démocratie, aussi est là pour brimer la profession. Ensuite, dire que le CESAC ne sanctionne que les journalistes de l'opposition, bon, je sais pas, il faut y avoir les statistiques, parce que nous avons les statistiques de la période électorale et post-électorale. Donc il y a équilibre, il y a des journalistes des médias au public, ainsi que ceux de médias privés qui ont été sanctionnés. Je le tableau ici. Si notre ami était là, je constaterais qu'il y a équilibre.
Mais il y a par exemple le cas de Canal Futur sur lequel on a vu le CESAC tergiverser. Jusqu'à aujourd'hui, cette chaîne de télévision n'aimait pas.
Non, je voudrais pas glisser sur ce dossier-là, mais en deux mots, il faut seulement retenir que le dossier Canal Futur, en dehors de la flagrance, la faute que Canal Futur avait commise, c'est un peu comme ce qui s'est passé en France, lorsqu'on publie les résultats avant l'échéance. Il y a des chaînes de télévision qui ont payé beaucoup d'argent en euros en France au présidentiel. Et pour le reste, il y a un problème administratif qui ne relève pas du CESAC. Donc, il y a d'autres structures institutionnelles qui doivent gérer ce dossier.
Tantôt, il n'y avait pas d'électricité, tantôt c'est l'ascenseur qui ne marchait pas, tantôt...
Oui, il faut avouer que nous avons travaillé dans des conditions très difficiles, mais l'essentiel est que nous avions pris notre responsabilité qui est arrivée à terme. Le plan administratif, ça, c'est pas le CESAC.
Voilà, la réalisation me signale que nous ne parvenons pas toujours à voir Dr Emmanuel Kabongo. On va continuer à tenter de le joindre. Il est journaliste et analyste politique. Monsieur Kasunga Chilunde, vous êtes secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Monsieur Banzatefolo, que vous venez de suivre, parle d'une presse fantomatique, le problème de structuration des entreprises de presse.
Ben, je ne voudrais pas glisser sur ce terrain-là, mais moi je dis que...
Mais c'est réel ce qu'il dit.
Si c'est réel, s'il y a une presse fantomatique, c'est l'État qui fait que cette presse-là soit fantomatique. Parce que comment voulez-vous aujourd'hui quelqu'un qui va au ministère de médias et demander un récépissé, on ne lui demande rien, et puis on lui fait le récépissé, on signe, on lui donne. Et à partir de ce moment-là, vous pensez que c'est la faute au journaliste ou à celui qui est devenu PDG ou éditeur? C'est pas de sa faute. C'est la faute à l'État. Et c'est l'État qui doit payer. Ce n'est pas le journaliste.
Et il a également fait allusion à la gestion de la crédibilité de certains journalistes qui laissent à désirer.
La crédibilité, c'est dans tout.
Et l'UNPC ferme les yeux devant tout ça.
Non, on ne ferme pas les yeux. Si vous fermez les yeux sur quoi? Ils ne ferment pas les yeux. Vous savez que dans les médias, il y a les gens qui savent bousculer les autres. Il y a les gens qui profitent de leurs relations de famille pour accéder aux sources d'information. Et lorsque vous n'avez pas des relations claniques, on ne vous reçoit pas. Et c'est ça la réalité dans notre pays. Et il y en a d'autres qui ont leurs amitiés. Mais est-ce qu'on doit donner l'information en fonction de vos relations? Mais moi, je dis non. Moi, je dis non. Il faut donner l'information à tout le monde.
En fonction de la taille d'un média.
Ben, la taille des médias. Prenons par exemple un journal de Kisangani. Mongongo, qui a un correspondant ici. Est-ce que vous imaginez que ce journal-là, parce qu'il n'est pas connu ici, son journaliste qui vient chercher l'information n'y a pas droit, mais parce qu'il a son public. Tout média a un public. Et il ne faut pas nécessairement dire que il ne faut pas que nécessairement ce public soit basé à Kinshasa. Il y a des journaux, parce que vous savez que dans les provinces, il n'y a pas d'imprimerie, il n'y a pas de courant. Et la plupart des journaux impriment ici, je ne parle que de ce cas-là, impriment ici, et puis envoient en province. Mais si moi, je suis de Kisangani, je vais vers vous, j'ai une information, je veux vérifier. Parce que vous n'avez jamais entendu parler de mon journal, vous ne me connaissez pas. Vous dites non, je ne vous donne pas l'information. Mais moi, j'ai ma source, je balance, et puis on vous dit non, il n'est pas venu à la source. Mais tout ça, c'est un problème. Quand quelqu'un vient vers l'information, il faut la lui donner, quelle que soit la taille. Il n'est pas dit que tous les organes de presse doivent avoir la même taille. Non, nulle part au monde. Il y a, même en France, il y a des journaux de taille internationale, il y a des journaux de taille régionale, départementale. Et tous ces journaux, il y a parfois les hommes politiques qui donnent la primeur d'une information à un journal de province. Je l'ai vécu dernièrement en Europe avec le journal Nord-Ouest, qui n'est pas connu, qui n'est pas des choses, mais qui est en province, et les autres ont profité de cette information et l'ont happé pour la répercuter dans leurs organes de presse respectifs.
Prenons cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga pour vous.
Docteur Claude Oyombo, à Lubumbashi, du Katanga, la plupart des journalistes qui exercent au Katanga n'ont pas de qualité. Avec comme conséquence, il y a un manque de professionnalisme, un faible niveau d'instruction, les émissions souvent creuses, de mabanga, etc. Moi, je suggère qu'on crée un conseil de l'ordre pour empêcher les journalistes qui ne sont pas qualifiés d'exercer.
Réaction.
Mais je vous dis que c'est la situation que nous vivons même ici, ce que nous appelons ici les moutons noirs. C'est des gens qui n'ont pas qualité, mais vous le voyez dans toutes les manifestations, il se présente comme des journalistes. Oui, il a collaboré à un organe comme ça, et puis après, il est partout et il se prévaut de cette qualité-là. Nous, en tant que UNPC, nous n'avons pas les moyens d'actionner la puissance publique. Mais on se plaint, on ne réagit pas. Vous prenez par exemple la même situation des journaux qui sont vendus en photocopie. Nous nous plaignons, le parquet, la police, mais on ne fait rien. Mais vous voulez que nous fassions quoi? On observe, on constate, désarmé.
Alors, justement, avant de redonner la parole à Banzati Folo, comment vous, au niveau de l'UNPC, vous jugez l'action du CESAC?
Non, je me réserve de répondre à cette question.
Voilà, Monsieur Banza Tiefolo, il y a des auditeurs qui nous écrivent, Galvani Piyouk de Mbujimaï au Kasaï Oriental, la responsabilité est partagée, d'une part les journalistes qui sont utilisés pour la survie, et là nous assistons à une information partielle et tendancieuse, et d'autre part la responsabilité est au gouvernement car il ignore ou fait semblant le rôle que joue la presse dans un pays en l'utilisant à son gré. Réaction.
Bon, je salue Galvani, qui est en Mbujimaï. J'étais en Mbujimaï pendant la période électorale. Monsieur Kasonga Tshilundi a parlé de moutons noirs. C'est une réalité dans la profession. C'est des gens, il ne faudrait pas qu'on les décrive à la radio, qui cherchent à vivre à leur manière. C'est des choses qu'il faudrait vraiment casser. Je me rappelle du temps de la Haute Autorité de Médias, nous avions pris une décision qui interdisait le coupage. Les coupages, c'est une forme de corruption qui pousse le journaliste à ne plus être indépendant dans le traitement de l'information. Mais ça avait provoqué tout du bruit dans la profession. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'on veut exactement. Bon, dire que le gouvernement est responsable, je ne pense pas. Je crois que tout ce qui doit se faire actuellement, c'est de... Il y a eu une aide qui a été promise au niveau budgétaire. Ça fait, je crois, deux budgets que ça n'a jamais été activé. Il faudrait que la profession s'organise correctement. D'abord pour que les entreprises de presse soient gérées de manière managériale. Ce sont des entités économiques et commerciales. Ils doivent produire un bénéfice. À ce titre, toute organisation permettrait au gouvernement de faire de sorte que cette aide-là puisse être correctement canalisée. S'ils y vont en ordre dispersé, je crois que ça va effriter toutes les énergies et ça ne portera pas. De deux, il faudrait qu'il y ait plus de séminaires pour que les journalistes sachent comment gérer une entreprise de presse. Aujourd'hui, il suffit de voir un ancien vendeur de journaux. Hein, il voit comment ça se passe, il fait un chien écrasé, il écrit un petit papier sur un petit truc qui s'est passé à Massina. Demain, il devient journaliste. Il y a Dr Claude qui a parlé de l'ordre de journalistes. Au stade actuel, c'est un peu difficile parce que, vous savez, l'origine même de la profession est compliquée par rapport aux juristes, aux médecins, etc. Parce qu'elle naît... avocat par exemple ou magistrat que quelqu'un qui a fait des études en droit. Ici, on a des philosophes, on a toutes les catégories professionnelles, donc c'est des choses on doit avancer petit à petit pour faire un processus, pour faire de sorte que s'il faut qu'on arrive à un ordre, on peut le créer, mais en temps utile.
Alors, le 3 mai dernier, à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, j'aide à noter que la situation, je cite, que la situation de la liberté de la presse en RDC s'est détériorée de 83% en un an. Est-ce que vous partagez cet avis?
Bon, GED, c'est une structure professionnelle indépendante. Il agit selon qu'il y a tel problème. Ils ont leurs indications, ils font les alertes, c'est dans leur philosophie de leur démarche de travail. Mais je crois qu'il n'y a pas pays, suffisamment libre en matière de liberté de la presse comme la RDC. Nous avons quand même voyagé dans certains pays. À Kinshasa seulement, il y a près de 55 chaînes de télévision qui émettent tout en clair. Plus de 42 stations de radiodiffusion et ne citons pas les nombres de journaux. Et lisez et suivez comment les journalistes se comportent sur les médias. Il y en a qui abusent même sur le plan de... Ils enfreignent, ils énervent certains textes légaux et réglementaires. Mais vous savez, il y a certains journalistes, il faut aussi l'avouer, qui les font parce qu'ils doivent provoquer, faire mal, de sorte que demain, ils sont pris comme des victimes résignées. Ça, c'est des choses qui ne sont pas à tolérer par rapport au code de déontologie que nous nous sommes tracés en 2004. Donc,
terminez votre idée.
Donc, je voulais dire que la lecture de GED, je ne la partage pas. C'est sa propre lecture. Mais je crois que la liberté de presse est quand même suffisamment et totalement ouverte dans notre pays.
Alors, Kassonga Chilundé, est-ce que vous partagez l'analyse de GED?
Ben, GED a ses paramètres qui lui ont permis d'arriver à ce chiffre-là. Et comme je n'y ai pas accès, il m'est difficile d'apprécier ce qu'il dit.
Et au niveau de l'UNPC, quelle est votre analyse?
Non, au niveau de l'UNPC...
Quels sont vos paramètres?
Non, c'est-à-dire que jusque-là, GED est membre de l'UNPC. Et qui est chargé d'alerte. Tout comme l'OMEC est membre de l'UNPC, qui est chargé d'instruire le dossier. C'est comme le parquet, quoi. Donc, ce sont nos membres qui jouissent quand même de leur autonomie dans leur fonctionnement. Donc, je ne peux pas juger ce qu'il a fait, d'autant plus que je n'ai pas les éléments d'appréciation.
Il y a beaucoup de moutons noirs, vous l'avez dit vous-même, mais on ne sent pas les actions menées par ces structures que vous citez, notamment l'OMEC, qui fait partie de l'UNPC. Comment vous expliquez ça?
Mais je vous dis que si vous remarquez la situation d'aujourd'hui, quand vous allez dans beaucoup de manifestations, vous en trouvez, il y en a peut-être deux ou trois. Et qui, quand nous les pointons du doigt, et ils quittent les milieux. C'est des gens qui, comment ils savent qu'il y a une manifestation ici, je ne sais pas. Mais alors, nous faisons un effort dans l'identification de nos membres, dans la délivrance de la carte de presse. C'est des gens, c'est parce que partout où ils vont là-bas, on leur exige jamais une carte de presse. Il suffit qu'ils se disent, je suis journaliste, mais on le laisse passer. Or, en disant que vous êtes journaliste, vous devez le prouver, même partout où nous passons.
Et on a connu tout un feuilleton autour de cette carte de presse.
Non, la carte de presse...
Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est régularisé?
Ça s'est régularisé, c'est-à-dire qu'on avait un problème avec notre imprimeur, que je ne voudrais pas citer ici, qui est connu, la Banque Centrale. Tous les paiements étaient effectués, mais la banque préférait les commandes qui lui rapportaient beaucoup plus d'argent que le peu de la carte. Mais aujourd'hui, nous avons un autre imprimeur qui délivre ses cartes dans les 48 heures, 72 heures qui suivent. Donc c'est ça l'avantage que nous avons. Et depuis deux semaines, nous avons repris l'opération de délivrance de la carte de presse.
Alors qu'est-ce qu'il faut très rapidement pour avoir cette carte? Parce qu'il y a beaucoup des journalistes qui vont suivre en ce moment.
Il faut juste remplir le formulaire. Et quand le formulaire est rempli, la commission vous identifie, vous donne le numéro d'identification, et puis ensuite, il envoie à l'imprimerie, et l'imprimerie vous imprime votre carte, et dans les 48 heures, 72 heures, vous avez la carte. Mais voilà. Ceux qui en possèdent déjà, ils peuvent seulement passer avec une photo passeport.
Il n'y a rien à payer comme...
Il faut payer 10 dollars seulement.
Voilà.
De cotisation. En tant que membre de l'UNPC.
Voilà. Kassonga Chilundé, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC. Banzati Folo, vous êtes président de la commission technique au Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC. Nous allons prendre cette réaction qui nous vient de Vienne, en Autriche, pour vous.
Franck Mboni, de Vienne, en Autriche. Le problème d'accès aux informations est encore loin d'être au standing des États démocratiques respectables. Pas seulement les problèmes de taxes dont on parle aujourd'hui, même au niveau du traitement des nouvelles, au niveau du traitement des informations, de leurs accès et surtout la liberté avec laquelle certaines nouvelles et informations doivent être diffusées sans être influencées, posent autant de problèmes chez nous. La surtaxe ne constitue que des alibis de trop pour restreindre aux citoyens congolais l'accès libre et facile aux informations. Là où on a ce souci manifeste d'impliquer les citoyens à la gestion quotidienne de la même chose publique, l'accès aux informations doit être une des priorités du gouvernement.
Réaction au Banzatiaforo.
Bah, vous savez, je crois qu'il a dit tout ce qu'il pouvait dire, monsieur Franck. Bonsoir ou bonjour, ça dépend. Et bon, moi je reviens encore à ce que j'ai eu à dire, mais il faut quand même soulever un débat sous une autre forme. Aujourd'hui, c'est à chaque acteur politique son média. On voit des acteurs politiques qui deviennent strampantins, ils deviennent ministres, PDG, etc. Il crée son journal, il a sa radio, sa télévision. Et dans ce télescope-là, ce conflit politique-là, il arrive aussi des fois, c'est un aspect, j'espère que le secrétaire général de l'INPC ne va pas me contredire, il y a certains journalistes qui ont des sérieux problèmes pour accéder à telle information parce qu'il vient des médias dont le propriétaire, parce que le gérant ne peut être qu'un prête-nom. Le propriétaire est membre soit de l'opposition ou du pouvoir et il aura difficile à... Donc il faudrait peut-être que les acteurs politiques s'ouvrent à tous les journalistes professionnels identifiés en tant que tels. Ça permettrait à ce que la profession puisse évoluer dans la gestion correcte de l'information et dans l'accès correct à l'information.
Saminta Bahamutuza de Bukavu Sud Kivu, on ne devrait pas déranger les médias avec des taxes qui ne vont nulle part et qui n'arrivent même pas au trésor public et qui se limitent seulement dans des vestes. Donc le gouvernement devrait avoir le devoir de protéger les médias et punir ceux qui veulent nuire à la liberté de la presse, car ce secteur fait bien son travail. Bernard Itunda de Walikale au Nord Kivu, je pense que malgré les différentes réformes dans ce secteur, le gouvernement a toujours des difficultés pour y remettre de l'ordre. L'Afrique est encore loin avec les principes de la liberté de la presse et de la démocratie. Brève réaction, Banzatifolo.
Vous savez, Monsieur Mutuza fait une affirmation qui est très grave. Il est difficile à mon niveau, personnellement, dans cette émission, de pouvoir prouver que toutes les taxes vont dans les poches de veste. Bon, sinon on ne paierait pas les fonctionnaires, on ne paierait pas les agents de l'ordre et de sécurité, etc. Donc ça, c'est une affirmation difficilement appréciable. Pour ce que vient de dire Monsieur Bernard Itunda de Walikale, bon, c'est vrai. Nous sommes dans un processus. Et puis même quand on parle liberté de la presse, c'est pas absolu, c'est pas absolu. Il y a toujours des mécanismes pour faire de sorte que les choses se passent correctement. Mais le cri que nous lançons, peut-être là, c'est de manière commune, que les acteurs politiques, socio-économiques, etc., puissent s'ouvrir et que les médias puissent être viabilisés, de sorte qu'ils aient des moyens à pouvoir opérer correctement.
Charles de Kinshasa, pour vous, Kassona Chilunde, les inquiétudes soulevées par l'OMEC sont consécutives à l'inexistence de l'État congolais au sens moderne du terme, bref, l'absence d'un État-service.
Mais il a raison, parce que vous pouvez vous imaginer, mon cher ami, ça fait 6 ans que l'Assemblée nationale avait donné à la presse une ligne de crédit dans le budget de 2007, si je ne me trompe pas, 2007, de 2 millions. Et ce budget n'a jamais été libéré. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui devraient libérer cherchaient à ce qu'on leur rétrocède 10%. Et la profession a estimé que elle ne peut pas en même temps combattre la corruption et corrompre au même moment. On n'a jamais libéré, et on n'a pas voulu donner les 10%, et donc on n'a jamais accédé à cet argent, jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on peut dire, qu'il n'y a pas de dossier, tous les dossiers étaient corrects, tels que ça a été demandé. Ça n'a pas été fait. Ça c'est un. De deux, le travail que nous faisons, c'est un travail d'intérêt public. Dans tous les pays du monde, il y a des aides directes et indirectes qu'on donne à la presse. Ça existe en France, à Brazzaville ici, au Gabon, dans tous les pays du monde on donne, sauf dans notre pays. Donc ça fait mal et je pense que Je ne sais pas ce que je peux dire de plus que ça.
Pacifique Mango de Lubumbashi au Katanga, l'OMEC doit savoir que l'accès difficile aux sources d'informations et la multiplicité des taxes sont dus à la mauvaise gouvernance, pas de démocratie et non-respect des médias, donc il n'y aura pas de remède pour cette question. Pensez-vous vraiment qu'il n'y ait pas de solution? Que faut-il pour améliorer la presse congolaise?
Mon cher ami Alain, pour améliorer la presse congolaise, il faut respecter les textes. Tout ce que le journaliste demande, il n'invente pas, ce n'est pas de l'aumône qu'il demande. C'est dans la loi. Et si on applique cette loi, et positivement, et négativement, au profit de la presse, je crois que tout irait pour le mieux. Un État qui prend des lois dont il n'est pas en mesure de les appliquer, je ne sais pas pourquoi on doit les prendre. Autant laisser vivre comme dans une jungle qu'avoir des lois qu'on n'applique pas.
Il faut respecter les lois pour améliorer la presse congolaise.
Oui, totalement, mais je voudrais d'abord placer un petit mot par rapport à un correspondant qui a dit qu'il y avait une existence de l'État congolais. Vous savez, on doit éviter des termes parce que sur le plan, les politologues vous diront autre chose en matière d'État. Un État, il y a des facteurs, il y a des éléments qui entrent en ligne des comptes, notamment les territoires, la population, le gouvernement. Nous avons toutes ces structures-là et le reste, peut-être, c'est au niveau de gestion
de la gouvernance.
Je sais pas s'il faut parler de gouvernance. Il faut situer les choses dans leur contexte et dans un cadre précis. Si c'est un individu comme ce que vient de dire Monsieur Carson Dactionneau, dès qu'il bloque les dossiers, il faut le cibler. À ce moment-là, on sait dire non, voilà, monsieur, nous avons sollicité l'argent prévu au budget, mais on ne l'a pas donné parce qu'il y a le parquet, il y a la justice qui peut travailler. Parce que des fois, on a tendance que tout ce qui peut être sollicité auprès des instances judiciaires et autres, non, ça ne se fera pas. Donc, s'il y a des gens comme ça qu'on peut identifier en tant que tel, parce qu'ils cherchent un pourcentage sur une aide à la presse, je crois que le gouvernement, à travers ses structures judiciaires, peut agir. Ensuite, pour le reste, c'est bon. Chaque loi est édictée et promulguée pour qu'elle soit respectée. Personne n'est au-dessus de la loi. Et s'il y a des freins quelque part et qu'ils sont identifiés, donc la porte est ouverte grandement pour tous ceux qui enfreignent cette loi-là.
Alors, pour la prison. Quelles sont les difficultés auxquelles le CESAC est confronté? Ça, c'est vraiment une parenthèse qu'on va vite refermer.
Bon, vous savez, beaucoup des structures d'instances de régulation de médias à travers l'Afrique, c'est un constat qui a été fait dans beaucoup de pays, en Afrique subsaharienne en particulier. C'est d'abord, vous savez, nous devons travailler, nous avons un matériel de monitoring, par exemple, qui est encore dans l'analogique. Il y a des pays, comme le Maroc, où on peut encore avoir un matériel à moindre frais, qui sont dans le numérique. Et il y a beaucoup de pays où les instances de régulation n'ont pas de siège, ils sont locataires. Donc c'est autant de choses, nous sommes branchés là-dessus, espérons que d'ici la fin de l'année, on pourra trouver une solution.
Kassouma Tilounde, conclusion.
Ma conclusion, c'est remercier le ministre de la Communauté des Médias, M. Lambert Mende, pour la promesse qu'il nous a faite de s'investir désormais pour que tous les avantages accordés à la presse soient effectivement accordé. Et j'espère que cette fois-ci, parce que ça fait plus de 3 ans qu'il est passé au ministère, on a attendu. Maintenant
donc,
qu'il s'est engagé,
cette fois-ci c'est la bonne.
Maintenant qu'il s'est engagé solennellement, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Et en ce moment-là, nous pourrons espérer que la presse pourra changer, faire du bon travail.
Alors, un appel à tous les journalistes qui vous suivent en ce moment, en ce qui concerne la profession.
Un appel, c'est le respect des règles, d'éthique et de déontologie. Un journaliste doit traiter l'information avec beaucoup de responsabilité, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est bon pour lui-même, pour son environnement, pour son pays, et qu'est-ce qui est mauvais, qu'il ne faut pas faire. Et dès qu'on a le code de déontologie comme sa Bible, on fait correctement son travail et on est apprécié par tout le monde.
Banzate Folo, un mot du CESAC à l'égard, juste un bref mot à l'égard de tout ce qui vous
suit. Oui, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication travaille sur un atelier qui sera bientôt organisé parce que nous devons aussi prendre en compte l'aspect économique et veiller à ce que toute aide publique, directe ou indirecte aux médias, soit octroyée aux bénéficiaires dans le respect du principe d'égalité. Donc nous allons faire un atelier pour que les gens sachent gérer correctement leurs entreprises de presse.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa. Au revoir.